En 2022, l'ONG Orthophoniste du Monde, ODM, fête ses 30 années d'existence. L'occasion de parler du métier d'orthophoniste et du rôle crucial que ces professionnels jouent dans la prise en soin des handicaps de langage et de communication. Nous partons à la rencontre d'orthophonistes et de médecins en France et en Côte d'Ivoire qui ont toutes et tous en commun de concevoir leur métier dans une démarche de partage de culture et d'échange pluridisciplinaire. Nous allons parler de l'autisme, puis embarquer pour la Côte d'Ivoire et revenir en France à la découverte d'un nouveau terrain d'action d'ODM à Lyon auprès de personnes en situation de migration.
Oui, donc je m'appelle Morgane Le Galoudeg, je suis secrétaire générale d'Orthophonistes du Monde et je suis orthophoniste à Paris. J'exerce principalement auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes avec troubles du spectre autistique. Dans la prise en soin de l'autisme, l'orthophoniste a un rôle extrêmement transversal dans l'évaluation, puis dans la mise en place des stratégies qui vont venir accompagner chaque personne et leurs aidants, donc leur famille, les personnels qui gravitent autour de chaque personne, en particulier dans la mise en place de moyens de communication. On va favoriser la mise en place d'un langage oral le plus efficace possible, quand c'est possible. Mais si ça n'est pas possible, on veillera à mettre en place des moyens de communication augmentés ou alternatifs à l'aide de pictogrammes, de signes, de gestes, pour que l'enfant communique avant tout dans son environnement le plus facilement possible. On joue un rôle aussi assez essentiel en fait dans le domaine de l'alimentation. Dans le trouble du spectre autistique, les personnes vont souvent présenter un répertoire alimentaire très réduit, avec des préférences pour des textures, des couleurs, des saveurs particulières. Il y a aussi tout le domaine des habiletés sociales aussi qu'on travaille avec les patients pour qu'ils puissent aussi se comporter avec leur père de manière adaptée en fait, surtout à la préadolescence et à l'adolescence où les codes changent, où les codes sont de plus en plus complexes aussi, qu'ils puissent s'adapter et s'intégrer le plus possible. C'est dans tout le domaine de la communication sociale. Et dans les habiletés sociales, il y a un jeune comme ça avec qui je travaille, qui a 16 ans, et qui, on faisait un bilan, on faisait le bilan de la pragmatique ensemble, donc tout ce qui est communication sociale, l'application en fait de la communication dans l'environnement, dans l'interaction. Un des éléments, c'était le décès d'un grand-parent. Et lui, avec un grand sourire, il me dit « Ah bah moi, mon grand-père est décédé le week-end dernier ». Et là, je m'arrête et je lui dis « Mais est-ce que, ça te fait quelque chose ?» Il me fait « Oui, je suis extrêmement peinée, mais si tu savais à quel point je sais pas l'exprimer. » Et là, je lui ai demandé s'il voulait qu'on travaille, en fait, sur toutes ces sphères-là, en fait, la sphère de la communication, des émotions, parce qu'il est assez performant en théorie de l'esprit, il est capable d'identifier les émotions des autres, ses émotions à lui, mais il n'arrive pas du tout à les exprimer, il en est très malheureux. Donc ça, c'est un domaine qu'on privilégie maintenant. Et il en est ravi parce qu'il a pu identifier lui, en fait, ses propres besoins en réponse à des événements récents.
Je suis Marielle Quintin, orthophoniste. Je suis présidente de l'ONG Orthophoniste du Monde. J'ai développé et spécialisé ma pratique pendant mes 20 années d'exercice auprès de personnes autistes. Et j'ai un petit peu étendu ma palette de savoir-faire professionnel à d'autres champs que l'orthophonie. Je pratique actuellement essentiellement une activité de formation et de guidance professionnelle. J'accompagne des équipes pluridisciplinaires qui exercent dans des établissements médico-sociaux ou sanitaires et qui accompagnent au quotidien des personnes autistes, que ce soit des enfants ou des adultes.
Alors, qu'est-ce que les orthophonistes apportent dans la prise en soin de l'autisme? C'est une vaste question. Ce qui justifie en tout cas que l'orthophoniste intervienne auprès d'une population autiste, c'est que notre métier, c'est vraiment le métier de la communication et le métier du langage. Mais avant, il faut pouvoir comprendre en fait leur manière très singulière de traiter les informations au quotidien. Souvent, on dit que les personnes autistes, elles pensent en images, elles pensent en détails, elles ont une façon d'appréhender le monde qui peut paraître pour nous, personnes dites neurotypiques, très fragmentées. Et c'est cette façon-là très particulière en fait de traiter les informations au quotidien, cette singularité cognitive en fait, qui impacte les différents domaines de fonctionnement et notamment celui de la communication sociale.
les orthophonistes donc au service bien sûr de la communication, donc c'était facile de trouver le lien entre l'intervention auprès de personnes autistes et notre travail au quotidien. Et dans notre pratique, c'est une pratique de l'accompagnement pour faciliter en fait la compréhension, la traduction de ce monde social, le nôtre, auprès de ces personnes autistes pour lesquelles ben, finalement notre monde social, nos codes sociaux, notre façon de nous adresser aux autres peut paraître parfois vraiment nébuleuse. Hein. Mais c'est aussi dans notre travail l'importance que l'on accorde à des systèmes de communication qu'on appelle alternatifs et qui sont vraiment des systèmes qui vont permettre de donner une voix aux personnes autistes qui, pour certaines, n'auront peut-être pas accès en fait au codage par le langage oral. Et puis l'orthophoniste, c'est aussi le professionnel de la transmission. Notre place, elle n'est pas qu'auprès des personnes qu'on accompagne, elle est aussi auprès des aidants, les familles, bien sûr, les frères, les sœurs, dans l'accompagnement de la compréhension de ce qu'est cette particularité, hein, cet autisme, et ce travail de guidance qu'on va pouvoir proposer pour permettre d'une part de comprendre l'autisme, mais aussi de comprendre l'autisme de cette personne-là. Parce qu'il y a aussi cette singularité dans l'autisme qui fait que quand on rencontre plusieurs personnes autistes, et ben on ne rencontre pas l'autisme, on rencontre d'abord des personnes et on s'occupe de faire en sorte que ben, cet autisme-là impacte le moins possible au quotidien l'adaptation, les critères fonctionnels qui permettent à cette personne de vivre au mieux dans notre société. Un exemple, alors j'en ai plusieurs, mais je vais prendre l'exemple d'un adulte que j'ai rencontré, qui devait avoir, je pense, une vingtaine d'années au moment où je l'ai rencontré. Il venait en consultation dans un centre de ressources autisme où j'intervenais comme orthophoniste à ce moment-là. Je devais lui faire passer une partie des bilans diagnostiques donc pour lesquels il venait, hein, pour diagnostiquer son autisme. Et l'interview que j'utilisais à ce moment-là amène des questions sur plusieurs domaines, et notamment sur ben justement tout le domaine du fonctionnement social. Et dans la conversation, je demande à ce monsieur ce qu'il aime et il me dit qu'il adore aller manger au restaurant chinois. Et moi, dans ma représentation de ce que c'est qu'un restaurant et aller au restaurant, je lui pose très spontanément la question de savoir avec qui il va manger au restaurant. Et à ce moment-là, ben, il y a un très grand blanc dans cet échange. Et ce monsieur me regarde et me dit « Comment ça, avec qui je vais manger au restaurant ?» Et je lui dis « Oui, ben, peut-être vous allez manger au restaurant chinois avec votre famille ou avec des amis ou des connaissances. » Et en fait, ce monsieur m'a répondu à ce moment-là « Mais en fait, moi, je n'ai jamais pensé que je pouvais aller manger au restaurant avec quelqu'un. » C'est vraiment... pour moi, très illustratif de ce que c'est à la fois que cette particularité sociale, hein, cette difficulté à être dans l'interaction sociale, mais aussi, avant même d'y être dans cette interaction, de pouvoir se la représenter comme quelque chose de possible.
L'ONG Orthophoniste du Monde a été créée en 1992 pour répondre à des besoins qui avaient été identifiés alors par la Fédération nationale des orthophonistes dans le champ de l'orthophonie. Donc c'est une association indépendante. Nous sommes tous bénévoles et exerçant par ailleurs nos professions. Donc aujourd'hui, les terrains d'action d'ODM se concentrent principalement sur deux axes. Un, en Côte d'Ivoire, nous venons soutenir en fait la POSI, qui est l'association des professionnels orthophonistes de Côte d'Ivoire, dans le développement de la licence en orthophonie depuis quelques années au sein de l'université de Boaké. Le deuxième axe correspond à l'action que l'on mène actuellement à Lyon, donc sur les territoires européens, auprès des populations migrantes, en particulier en coopération avec les PASS, qui sont les permanences d'accès aux soins de santé, en particulier les PASS pédiatriques actuellement, donc pour identifier les besoins en fait qu'ont les populations qui passent par ces structures d'accueil. Et donc il y a eu la création d'un réseau solidaire d'orthophonistes.
Nous avons participé à la création de la première licence professionnelle en orthophonie en Côte d'Ivoire. C'est un long travail de plusieurs années. Les premiers contacts étaient en 2017. Actuellement, en tout cas, l'activité d'orthophoniste du monde, c'est de pouvoir être en partenariat avec les acteurs locaux et de les appuyer dans le développement de cette licence professionnelle. Les premiers orthophonistes ivoiriens seront diplômés en février 2022. La formation est rattachée à l'université Alassane Ouattara de Bouaké et les cours sont dispensés à Abidjan au sein de l'Institut national de formation des agents en santé. Ce sont des orthophonistes qui participent aux savoirs qui sont dispensés aux étudiants et des orthophonistes qui sont regroupés au sein de l'APOSI, qui est l'association professionnelle des orthophonistes en Côte d'Ivoire. Donc Orthophoniste du Monde collabore avec l'APOSI au service du développement de cette licence professionnelle. On a deux professeurs très impliqués dans le champ du développement des ressources en santé en Côte d'Ivoire. Le professeur Kouad, qui est psychiatre exerçant à l'hôpital psychiatrique de Bouaké, et professeur Kouassi, qui est ORL. Donc ce sont de fervents défenseurs de l'orthophonie et surtout convaincus que dans un paysage de soins, les orthophonistes sont des acteurs indispensables en Côte d'Ivoire, tant dans le champ de la rééducation que dans le champ de la réadaptation en fonction des handicaps auxquels ils vont s'adresser. L'objectif est que l'orthophonie devienne en fait une profession reconnue dans la fonction publique ivoirienne pour que les orthophonistes puissent être déployés dans les services de santé, soit des centres hospitaliers universitaires, soit des centres hospitaliers régionaux. Ils exerceraient en psychiatrie, en ORL, en pédiatrie, dans tous les services hospitaliers dans lesquels l'orthophonie a sa place en fait, en neurologie également. Et ensuite, avec la possibilité d'avoir aussi des exercices dans des établissements privés ou des structures de type association portées par d'autres ONG.
Je suis Bénédicte Durier. Je suis française, j'ai fait mes études d'orthophonie à Lille. J'ai travaillé déjà donc 4 ans au nord de la Côte d'Ivoire avec des enfants sourds et des enfants handicapés mentaux de 2003 à 2007 où j'ai été accompagnée par ODM. Ensuite, je suis retournée en France, j'ai travaillé pas mal dans un CAMS, donc j'ai été formée aux dernières connaissances sur l'autisme. En novembre 2018, j'ai eu la visite du professeur Kouad, qui est psychiatre, qui venait me présenter un projet qu'il avait avec professeur Kouassi, qui est ORL, de monter une formation initiale en orthophonie ici en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'y en avait pas, que eux, en tant que professeurs d'ORL et psychiatres, ressentaient fortement les besoins. Nous, on a été sollicités pour organiser et faire passer le concours d'entrée. Quand je suis arrivée, il y avait déjà cette association qui existait. Grâce à deux orthophonistes togolais formés au Togo et une orthophoniste ivoirienne qui avait formé un bureau déjà de l'association des professionnels orthophonistes de Côte d'Ivoire. Ça a du sens de travailler sur le terrain, mais ça a encore plus de sens de former une vingtaine de personnes qui vont pouvoir faire le boulot après. On a commencé dès la deuxième année à élaborer un plan pour faire venir des enseignants de l'extérieur. Et on a lancé un appel au niveau de la FOAF, donc la Fédération des organisations d'orthophonistes de l'Afrique francophone, pour que des collègues de la sous-région, ou d'un peu plus loin même, d'Afrique en tout cas, qui auraient les compétences, puissent venir nous soutenir. Les besoins sont énormes, ça c'est sûr. La Côte d'Ivoire, c'est 25 millions d'habitants. Je n'ai pas de chiffres sur le handicap, mais on sait que
les besoins
sont énormes. Par exemple, pour situer un peu, pour toute la Côte d'Ivoire, il y a une école d'enfants sourds officielle nationale, oui, qui est à Abidjan. Qui a un programme qui fonctionne très bien d'ailleurs, en langue des signes, qui est, donc éduque des enfants du CP jusqu'au CM2, et ensuite il les intègre dans des écoles Ils sont au collège, ils vont dans des écoles, ils sont accompagnés par des interprètes. Certains passent le bac. Voilà, c'est une école qui fonctionne bien, mais il n'y en a qu'une pour 25 millions d'habitants. Le métier n'existe pas pour l'instant. Dans la liste des métiers en Côte d'Ivoire, c'était des expatriés qui venaient poursuivre leur mari ou qui s'expatriaient pour X raisons et qui venaient travailler comme orthophoniste dans le milieu expatrié ou dans les écoles de la haute société ivoirienne, sachant qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'assurance maladie. Ça commence à se mettre en place. Il y a une couverture maladie universelle qui commence à se mettre en place, mais l'orthophonie n'est pas encore dedans. Il y a bien d'autres besoins avant le vital, le PAMU, les accouchements. Voilà. Il y a un espoir pour que déjà ceux qui ont été formés là dans la première promotion puissent intégrer la fonction publique. Un autre espoir qui est en cours de gestation, j'ai envie de dire, c'est que la prochaine promotion soit au sein de l'INFAS, non plus une structure privée à côté, mais rattachée, mais vraiment une filière de l'INFAS, c'est-à-dire avec un diplôme qui soit en concours d'État dès le départ. Et donc une vingtaine d'orthophonistes qui sortiraient fonctionnaires et qui seraient ensuite affectés forcément à l'intérieur du pays, donc sur tout le territoire.
Tout à fait.
Pas les cantonner à Abidjan. Et ça, ce sera l'avenir du développement et du déploiement de l'orthophonie. S'ils veulent vraiment développer le métier, il va y avoir sûrement quelques sacrifices à faire. Ils vont vraiment être des pionniers et donc là, il va y avoir des montages sûrement à réfléchir pour qu'ils puissent avoir envie d'aller créer un centre avec une dimension plus sociale.
Oui.
On espère que effectivement des bailleurs pourront nous entendre, nous accompagner, disons, pour permettre des créations de structures. La première promo est super, franchement. Je pense qu'il y aura de l'engagement.
On a senti ça beaucoup,
en
les rencontrant.
Ils ont accroché avec le métier, ils sont passionnés. Enfin, je pense que l'association des professionnels aussi va
se très engagée, bien sûr.
Je pense que ça va être intéressant. Donc moi, à l'horizon 2030, on va dire, je me dis, il y aura peut-être 60 orthophonistes en Côte d'Ivoire, ce serait déjà pas mal. À chaque étape, il y aura à accompagner ces jeunes pour que la démarche soit toujours dans le sens d'un développement du métier et surtout d'un accès à toute la population.
Enfin, bien sûr.
À toute la population, dans le domaine du handicap, dans le domaine, dans tous les domaines, quoi. Mais c'est vrai que, comme il y a déjà aussi des démarches qui sont faites au niveau de la Côte d'Ivoire pour des écoles inclusives, je pense que l'orthophonie peut aussi accompagner tout ce mouvement-là et se positionner, entre guillemets...
comme un soutien.
Comme un soutien pour l'inclusion.
Voilà.
Alors, je suis le professeur Kwa Assemomédar. Je suis psychiatre de formation. Et dans le cadre du développement de l'orthophonie en Côte d'Ivoire, je suis co-initiateur du programme de la licence d'orthophonie. Au niveau de la prise en charge de l'autisme, dans la région de Gbeke, dans le centre de la Côte d'Ivoire, on a développé tout un programme autour d'un centre de référence de l'autisme, de tout ce qui est trouble des apprentissages et en plus de tout ce qui est handicap psychosocial. On a ce qu'on appelle des auxiliaires spécialisés qui sont l'équivalent des AMP en France et qui sont en charge de tout ce qui est projet d'accompagnement au quotidien et d'aide à l'inclusion scolaire des enfants porteurs d'autisme. Et cette équipe travaille en lien justement avec les orthophonistes, une orthophoniste coopérante et une autre orthophoniste qui vient de terminer sa formation, en lien également avec un pédopsychiatre de Boaké. Dans un premier temps, on a développé au sein du Centre Ressources Autisme et de rééducation fonctionnelle des enfants autistes tout un programme d'accompagnement des familles, de guidance parentale, d'information sur la question de l'autisme, sur l'inclusion sociale, sur la question de l'acceptation du handicap et de l'accompagnement des familles en termes de responsabilisation, de transfert de compétences parentales. Pour nous, l'enjeu, c'est comment développer des services décentralisés, des services, j'allais dire, d'orthophonistes de première ligne, parce que notre réalité, c'est que beaucoup de familles n'ont pas accès de façon géographique, de façon financière aux services orthophoniques. Et donc, il faut transférer des compétences aux familles, aux éducateurs de la petite enfance, aux matrones, aux dames qui font fonction d'aide maternelle, pour que les premiers soins, les premières compétences orthophoniques soient données en appui, en supervision aux équipes de référence, aux orthophonistes. Nous, on parle en Côte d'Ivoire des agents de santé communautaire. Pour nous, on rêve d'avoir des agents de santé qui sont des auxiliaires, des orthophonistes, qui sont dans le prolongement, et ça permet de rendre accessible le service à moins de coûts, mais de bonne qualité. La réalité, c'est que la conception socio-culturelle, les barrières, même institutionnelles, font que la question du handicap est mal perçue, tant par les professionnels de santé, tant par les professionnels sociaux, que les familles. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui pour notre centre, c'est de mieux faire comprendre aux professionnels de santé la question du handicap, la question de l'accompagnement des enfants, des adolescents, des personnes en situation de handicap, et favoriser leur inclusion sociale, leur inclusion professionnelle. Et de plus en plus, ce centre vise justement à impliquer tous les professionnels pour une synergie d'action en vue du renforcement de l'action autour des personnes en situation de handicap, notamment en situation de handicap cognitif. Pour nous, on pense que la collaboration avec les orthophonistes, plus tard certainement avec des ergothérapeutes, avec des psychomotriciens, est un défi majeur pour les interventions précoces des enfants en situation d'handicap intellectuel, d'handicap cognitif ou d'handicap psychosocial. Et l'enjeu pour nos pays, c'est d'intervenir précocement, d'assurer des soins précoces, des interventions précoces, de travailler au renforcement des compétences des familles et de développer très rapidement des services adaptés au niveau communautaire en matière de prise en charge du handicap, de l'inclusion communautaire et de tout ce qui est rééducation communautaire. Merci.
Je suis professeur Kwasi Judith Eleonore, médecin ORL, enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké. J'ai découvert l'orthophonie lors de mon stage à Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin, dans le service du professeur Darouzé. C'était la première fois que j'entendais ce mot et c'était la première fois que je voyais ces dames en train de donner, on va dire, la parole aux enfants.
Et au cours de votre pratique, particulièrement à Boaké, est-ce que vous avez rencontré des mères qui étaient confrontées à la surdité de leurs enfants ?
Beaucoup de mamans. Et ça m'a vraiment peinée. C'est pour cela qu'il y a eu ce projet d'orthophonie. Parce que chaque fois que les mamans venaient, elles me disaient, « Docteur, mon enfant ne parle pas, il a 3 ans, il n'est pas comme ses frères et sœurs, il n'entend pas. » Et après avoir fait un bilan de la surdité, on se rend compte que l'enfant entend correctement. Alors, donc, qu'est-ce qu'il lui faut pour pouvoir parler, pour pouvoir mettre une phrase, faire une phrase, pour que la maman ait la joie qu'il faut quand elle donne naissance à son enfant. Donc, on s'est dit, il faut une rééducation. Et cette rééducation qu'il a fait, ce sont les orthophonistes. Et on se rend compte que dans nos hôpitaux publics, on n'a pas d'orthophonistes et les orthophonistes se trouvent tous à Abidjan. Ce qui est difficile pour les parents qui sont à Boaké de pouvoir venir à Abidjan et pouvoir faire suivre leurs enfants. D'où ce projet qui a vu le jour, si vous voulez, quand on était allé à l'agrégation à Dakar, le professeur Kwa et moi, on s'est assis, puis on a dit, il faille qu'on s'y mette, il faille qu'on puisse donner à notre population ce qu'il faut. Il ne faudrait pas que notre prise en charge s'arrête au diagnostic, et puis on n'a pas de solution. C'est ainsi qu'est née l'orthophonie en Côte d'Ivoire. On n'a pas de chiffres sur la surdité en Côte d'Ivoire. C'est, si vous voulez, c'est depuis 2015 avec le laboratoire MEDEL. qu'on a mis en place un projet de dépistage de la surdité néonatale qui a pris fin il y a de cela 2-3 mois, donc de 2015 à aujourd'hui. Et donc c'est après le point de toutes ces activités de dépistage qu'on pourra avoir, si vous voulez, des chiffres sur la surdité néonatale en Côte d'Ivoire. Après ce projet de dépistage néonatal de la surdité, on voudrait, par les chiffres qu'on va sortir, montrer à l'État que c'est une pathologie qui existe et qu'il faille, pour la prise en charge, que l'État puisse s'engager pour que les parents qui ne peuvent pas prendre en charge leurs enfants puissent être aidés par l'État de Côte d'Ivoire. On peut croire à un jour nouveau, et parce que le jour où on devait rendre les résultats de ces dépistages, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture universelle était là et il a fait des promesses. Donc on espère que nos enfants pourraient être pris en charge de façon globale pour qu'ils aient le sourire, pour qu'ils ne restent plus, on va dire, dans le silence. Parce qu'un enfant qui n'entend pas, qui ne parle pas, pour moi, il est dans le silence et il ne vit pas.
Est-ce que vous voulez dire quelque chose?
Je voudrais dire merci à Orthophoniste du Monde d'avoir bien voulu nous accompagner dans ce projet, de toujours rester avec nous, parce que nous avons toujours besoin de vous, parce que vous avez l'expérience, vous avez vécu des choses que vous allez nous inculquer afin que nous puissions aussi marcher dans vos pas et faire vivre l'orthophonie en Côte d'Ivoire.
Je suis Christophe Mbedi, je suis orthophoniste et parallèlement à ça, je continue les études en psychologie cognitive et aussi en sciences de l'éducation. J'étais diplômé à l'ENAM au Togo en 2013 et je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2014. Et là, j'ai commencé à exercer en 2014 dans un centre de kinésithérapie où on prenait en charge que des personnes ayant l'aphasie et puis des enfants atteints d'IMC. Avant d'évoluer en libéral complètement en 2017, où j'ai finalement mon cabinet en 2018. Moi, personnellement, de mon côté, le travail que je faisais pour la licence, c'est de faire déjà le suivi et le paiement des enseignants. Et j'ai aussi pour rôle d'accueillir les enseignants expats et de les introduire pour la première fois à l'école d'orthophonie. J'ai aussi en charge la coordination de tous les maîtres de mémoire. Et en deuxième année, j'ai donné un cours sur le langage oral et aussi sur le bégaiement. Et cette année, j'ai donné quelques cours de dysphonie de l'enfant et de l'adulte et puis les paralysies laryngées. Avec l'implication de l'INFAS, qui est la structure qui est habilitée à former les personnes, le personnel paramédical, et avec le soutien de la POSI, je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup durer dans le temps.
Bonjour, je suis Rachidou Bouika, orthophoniste en Côte d'Ivoire, président de la POSI, également trésorier général de la FOAF, la Fédération des associations orthophonistes dans les pays de l'Afrique francophone. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir parmi nous une nouvelle promotion d'orthophonistes formés à Abidjan. Et dans cette formation, j'ai eu un rôle à jouer en tant que président. J'ai été, si j'ose le dire, la charnière entre l'INFAS et les orthophonistes d'ici et d'ailleurs. L'INFAS, c'est cette structure qui forme sur place, à Abidjan ici, le personnel de santé. En tant qu'orthophoniste, je suis très à l'aise dans les pathologies de la voix, la surdité également et le langage oral. J'aime bien également toucher un tout petit peu tout ce qui a trait au langage écrit et sans oublier l'aphasie que j'aime bien aussi. J'ai été diplômé à l'École nationale de Lomé, à l'ENAM, en 2010. Je suis de la deuxième promo à l'École nationale des auxiliaires médicaux de l'ENAM. Il serait très important pour nous de penser au futur déjà. Il faut qu'on ait des orthophonistes qui aient l'envie de travailler dans le sens de la recherche pour que nous puissions adapter, créer le matériel ici, pourquoi pas. Et dans l'avenir, il y a une deuxième promotion qui rentre. Toute notre prière serait qu'elle ait aussi cette formation de qualité que viennent d'avoir les 16 sortants avec l'appui de l'ODM et grâce aussi à tous nos collègues qui n'ont ménagé aucun effort pour participer activement à la formation de la première promotion. Il y a aujourd'hui 16 orthophonistes qui viennent de sortir et nous remercions l'État qui nous tend la main tout en acceptant d'intégrer directement ces orthophonistes diplômés dans la fonction publique. L'État pourra donc déployer ces orthophonistes dans les CHU et en même temps à l'intérieur de la ville d'Abidjan et en même temps à l'intérieur du pays pour soulager toute la population. L'objectif, c'est de pouvoir avoir dans chaque zone des orthophonistes pour ne pas qu'il y ait trop de déplacements pour des soins en orthophonie. Et du coup, pour nous, l'Association professionnelle des orthophonistes, nous allons devoir travailler également pour garantir ces soins de qualité et en même temps contrôler, travailler sur la nomenclature pour ne pas qu'il y ait des dérapages financiers et que la population ait un service de qualité à un prix raisonnable.
Je m'appelle Élise Mario, je suis orthophoniste à Lyon. Au tout début de ma pratique, j'ai commencé à travailler à La Réunion et en Martinique pendant plusieurs années. Donc, du coup, j'ai été vraiment d'emblée immergée dans un bain plurilingue et multiculturel. Aujourd'hui, depuis une douzaine d'années, là, je travaille plutôt dans le domaine de la surdité, avec à nouveau des enjeux forts au niveau de la langue et de la culture, notamment autour de la langue des signes. Je suis partie en mission pour ODM par rapport à ma pratique spécialisée dans la surdité pour aller former des personnes au Cambodge et au Togo. Et là, actuellement, je coordonne les actions d'ODM en France. Le projet à Lyon est né déjà d'une prise de position associative. Il y a environ 5 ans, ODM a fait le choix de proposer des actions en France auprès des personnes en situation de migration. Jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'action en fait, sur le territoire français. On répondait surtout à des demandes ailleurs dans le monde. Mais voilà, on a été sollicité aussi en France par des différentes associations qui se trouvaient très démunies pour trouver des orthophonistes pour les familles qu'ils accompagnaient. On connaissait déjà KDM, Kiné du Monde, on avait eu déjà des actions communes avec eux. Et KDM avait une convention avec les PASS, qui sont les permanences d'accès aux soins de santé. Ce sont des services hospitaliers publics qui accueillent gratuitement des patients qui n'ont pas de couverture maladie. Et beaucoup de migrants, du coup, qui n'ont pas de droit ouvert. Et à Lyon, on a créé un réseau solidaire d'orthophonistes libéraux qui acceptent de recevoir bénévolement des patients adressés par les médecins des PASS. Dans ce contexte interculturel, c'est vrai que les orthophonistes doivent vraiment s'adapter dans leurs interventions. Une première chose, c'est de pouvoir créer une alliance thérapeutique, même si on ne partage pas la culture de l'autre et peut-être même pas sa langue, et de créer un climat de soins qui soit bénéfique pour qu'il se passe des choses avec la famille, avec cet enfant au sein de la séance. Pour moi, ça passe en premier par aller vers la culture de l'autre, au moins savoir de quel pays exactement vient la famille, de quelle ville. On peut quand même aussi regarder ensemble une carte, essayer de savoir si la ville c'est au bord de la mer, pas au bord de la mer, mais essayer déjà de montrer à la famille qu'on est bienveillant et qu'on va essayer de construire quelque chose ensemble, de cheminer ensemble dans ce soin. Pour moi, c'est essentiel de faire participer les familles, de vraiment, au sein de la séance, privilégier le faire ensemble. Et puis, après, dans notre expertise professionnelle, ça va être très important aussi de savoir si l'enfant a été exposé au français ou non, si les difficultés qu'il rencontre, il les vit également dans sa langue maternelle ou non. Il faudra aussi au sein de nos séances faire vivre la langue maternelle, ne pas hésiter à demander à la famille, à l'enfant, comment on dit tel ou tel mot, peut-être même nous y essayer pour rendre la situation un petit peu plus détendue et agréable. Et puis, très important, il faudra aussi absolument travailler avec les partenaires qui, eux aussi, du coup, rencontrent cette famille. Ça pourrait être la PMI, la protection maternelle infantile, du coup, qui s'occupe des soins pour les petits. Si l'enfant est scolarisé, il faudra se mettre en lien aussi avec l'école pour pouvoir tous ensemble accompagner le mieux cette famille et proposer quelque chose de cohérent. Et il faudra aussi, je pense, accepter que cette famille vit des choses compliquées, un parcours compliqué, et que peut-être un investissement dans un soin orthophonique régulier, ça sera peut-être pas toujours possible, mais que ce qu'on amènera, ben, ce sera déjà un petit bout d'orthophonie qui pourra resservir plus tard. Par exemple, quand on a un enfant complètement mutique, qui ne dit rien du tout, et qu'on arrive au détour d'un jeu à lui dire bah, tu veux encore jouer à ce jeu, qu'on amène peut-être un petit signe de langue des signes encore, et qu'on dit aux parents bah, comment on dit ça dans votre langue, ils comprennent très bien ce dont on parle, et le parent là il voit très bien ce dont il s'agit, et on est dans un moment assez fort humainement, et on est tout à fait là dans notre place d'orthophoniste.